Bonjour et bienvenue sur Communautaire, la communauté des initiatives saines et éco-responsables. Je suis Pauline Ebel, entrepreneur à impact. Avec Communautaire, je vous propose de rencontrer ensemble des acteurs engagés pour la planète et pour la santé et de vous faire découvrir toutes les initiatives menées à titre entrepreneurial, individuel ou bénévole, visant à produire ou à consommer plus durablement. Belle écoute! L'épisode vous est proposé en partenariat avec Ecosia, le moteur de recherche éco-responsable qui reverse 100% des bénéfices à l'Action pour le climat, dont 80% pour financer des projets de reforestation situés dans des zones critiques de biodiversité. Pourquoi vous parlez d'Ecosia ? Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Dans ce podcast, on parle d'initiatives qui contribuent à un monde meilleur. Donc si vous cherchez une idée de geste green toute simple à mettre en place et qui a un impact concret, pensez à Ecosia. Toutes les 45 recherches, c'est un arbre qui est planté. Allez simplement sur Ecosia, ecosia.org, et mettez-le en moteur de recherche favori ou installez-le sur votre smartphone. Et en plus, c'est gratuit. Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode de Communautaire, place à la maroquinerie responsable. Et j'ai la chance d'accueillir Pauline Combe, cofondatrice d'Atelier Verdé. Bonjour Pauline, tu vas bien ?
Bonjour Pauline, je vais très bien et toi ?
Ça va, merci. Alors Atelier Verdé, ce sont des pièces de maroquinerie conçues en France avec des matières durables, avec une singularité, celle du recyclage de la chambre à air de tracteur. Plus qu'une gamme de sacs et d'accessoires, c'est aussi une véritable démarche citoyenne qui permet de préserver l'emploi local et le patrimoine industriel. Alors pour commencer, Pauline, est-ce que tu peux déjà te présenter, s'il te plaît ?
Bien sûr. Moi, je m'appelle Pauline, j'ai 23 ans, j'ai fondé Atelier Verdé avec Clément, mon associé, il y a maintenant un an et trois mois, donc presque un an et demi. Donc Atelier Verdé, il faut savoir que c'est une marque de maroquinerie, comme tu l'as dit, qui a une particularité, on recycle la chambre à air de tracteur. Donc il faut savoir que c'est vraiment notre signature. On utilise aussi à côté un cuir qui est né végétalement, mais je pourrais revenir sur toute la méthode de fabrication quand tu vas me poser toutes les questions. Et ce que je peux dire, c'est qu'on travaille avec un atelier qui est classé patrimoine vivant. On fonctionne en précommande. On essaie, voilà, dans le processus, de vraiment penser le produit pour qu'il tienne dans le temps, qu'il soit qualitatif, mais qu'il soit aussi esthétique et qu'il réponde à un réel besoin. Voilà un peu pour présenter Atelier Verdé. Puis si je peux me présenter moi, je suis styliste de formation, d'où l'intérêt lié à ces sujets.
Et du coup, quel était le déclic pour toi ? Plutôt l'envie de créer, de designer un produit de maroquinerie ou la nécessité du réemploi ou alors que tu as pu identifier une faille dans les matières qui n'étaient peut-être pas durables dans ce secteur-là ? Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de créer cette gamme ?
C'est un peu une histoire, on va dire. Ça a débuté à mes 16 ans. Je veux dire que c'est tout un cheminement et un processus, ce qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas linéaire. De toute façon, quand on entreprend, rien n'est linéaire. Moi, j'ai commencé à recycler la chambre à air, j'avais 16 ans. Donc au départ, j'étais en art appliqué, j'ai fait un cursus sur 3 ans, et on nous demandait de recycler une matière, et j'ai commencé avec la ficelle de rond-balleur. Donc la ficelle de rond-balleur, c'est la ficelle bleue qui est autour des bottes de paille dans les champs. Et j'ai commencé à la tricoter, parce que j'adorais tout ce qui était la matière, j'adore partir d'une matière et en faire complètement autre chose. C'était vraiment une demande aussi à l'époque. Et voilà, c'était des choses plutôt artistiques. Mais ce qui me manquait, c'est que, en fait, c'était très artistique, mais j'ai toujours eu besoin que ce soit plutôt appliqué dans la vie quotidienne, ou du moins, on va dire appliqué dans la vie quotidienne. Donc le cheminement a continué. J'ai commencé à justement trouver cette chambre à air qui était dans l'atelier. Et j'y ai vu une matière qui était plutôt malléable ou qui était plutôt intéressante au niveau du toucher. Et je me suis dit, mais pourquoi pas justement utiliser cette matière pour faire du fil et la tricoter. Donc c'est vraiment parti de ça. Après, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée en BTS design, où là, on avait des gravures laser. Donc j'ai commencé à la graver au laser. Et puis, par la suite, j'en ai fait des véritables produits avec des personnes qui étaient en maroquinerie, des personnes qui étaient en alternance à l'époque et qui m'aidaient dans mes projets, parce qu'on devait faire une collection entière, en fait, la deuxième année. Donc, j'avais fait une collection à peu près de 10 pièces qui contenaient, du coup, du vêtement et de la maro, même parce que j'ai toujours aimé faire, on va dire, un peu de tout. J'ai commencé, vraiment mes premiers prototypes. Mais c'était juste à l'idée, on va dire, de, voilà, d'étudiante, j'avais pas du tout conscience de ce qu'était qu'entreprendre, de ce qu'était que créer une marque, même si j'avais été avec une créatrice, notamment en stage sur Paris, je m'étais toujours dit que je le ferais pas, parce que je savais la complexité que c'était d'être à son compte en entreprise. En tout cas, je l'avais vu à l'époque, et j'ai toujours dit que je le ferais pas. Puis voilà, ça a tout acheminé. Voilà, je raconte tout dans la long et en large, mais ça peut peut-être intéresser certains. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée dans un grand groupe en stage. Alors, je suis partie en Corée du Sud et après, j'ai enchaîné dans un grand groupe. Et dans ce grand groupe, j'ai appris énormément de choses. Ils m'ont repris en poste par la suite. Mais quand j'ai commencé à être en poste, en fait, j'ai vite compris que j'avais besoin de créer, que ce que j'adorais, c'était monter plein de projets et que j'aimais en fait entreprendre. Et du coup, j'ai rencontré Clément, mon associé à ce moment-là, qui lui entreprenait depuis déjà un moment dans divers domaines. Et je me suis dit, bah non, en fait, c'est maintenant ou jamais. Je suis revenue dans ma région. J'ai vraiment fait le processus long, mais je suis revenue dans ma région. Et je me suis dit, bah, c'est maintenant ou jamais. Il faut que je recycle cette matière. Il y a eu le confinement qui est arrivé. Et puis, je me suis dit que c'était maintenant. Voilà un peu le processus en version longue.
Et finalement, pourquoi le choix de la maroquinerie? Puisque tu disais que précédemment, tu aimais créer différents objets, différentes utilisations. Pourquoi finalement la maroquinerie, c'est quelque chose qui se prête le mieux à la matière de la chambre à air au tracteur ou du cuir?
Alors, pourquoi la maroquinerie? Je pense que j'aime beaucoup. En fait, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup par la matière et je trouve que j'adore travailler la matière pour l'appliquer sur une forme. Je fonctionne beaucoup comme ça. Ça dépend des fois, je pars de la forme, mais je pars souvent plutôt de la matière. Et justement, la maroquinerie, il y a un attrait aussi. C'est quelque chose qu'on a tout le temps près de soi. C'est un objet qui est... voilà, on met plein de choses dedans, on met un peu sa vie. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, je ne suis pas du tout fermée au textile et à des objets au quotidien. J'ai quand même un profil plutôt créatif, donc je ne m'interdis pas de... on a voulu recentrer sur la maroquinerie, mais je ne m'interdis pas du tout de diversifier, à savoir que j'organise un défilé, donc c'est encore en cours, mais normalement on organise un défilé fin de l'année, et que forcément, voilà, la maroquinerie sera mise en valeur, mais je pense qu'il y aura peut-être un peu de textile. Voilà.
Et alors, quel est le procédé de fabrication? Comment on en vient à utiliser ce cuir, votre spécificité, le recyclage de la chambre à air de tracteur, pour en faire des sacs? Comment ça se passe?
Alors, c'est un processus... En fait, il faut savoir que la chambre à air, du coup, elle n'est pas... La principale difficulté, c'est que c'est pas un matériau qui, contrairement à une peau, même si une peau a toujours des irrégularités, elle reste quand même plutôt assez plate. La chambre à air, c'est quelque chose qui est rond, donc c'est quelque chose qui a une forme qui n'est pas... Voilà, qui est concave. Du coup, elle est coupée. Donc, actuellement, c'est nous qui récupérons la chambre à air, on les coupe en morceaux, et ensuite elles sont gravées du coup au laser dans une entreprise spécialisée qui va donc voilà tout nous graver la matière pour lui donner un autre aspect, et ensuite on va envoyer en fabrication pour faire du coup nos rabats, parce que comme je le disais, nous, la partie qui est en chambre à air, c'est nos rabats, nos bandoulières. C'est toujours un élément du sac, mais on peut pas se permettre de tout faire en chambre à air. Alors, bon, je pourrais en faire, hein. Je pense que j'en ferai un prototype tout en chambre à air, mais au niveau industrialisation, je sais très bien que c'est impossible, parce que la chambre à air est quand même une matière qui est difficile à travailler. Et je pense que toute la particularité de notre marque, c'est aussi d'arriver à faire des produits qui soient esthétiques, je l'ai dit, et j'ai envie justement d'avoir un peu cette confrontation entre un matériau qui est plutôt noble, enfin moi je le considère comme noble, le cuir, et un matériau qui est plutôt considéré comme on va dire un rebut, ou presque dire un déchet, et je trouve que c'est ça qui fait la force de notre marque. Voilà.
Et le cuir, en l'occurrence, vous récupérez des cuirs qui sont en fin de stock?
Alors, les cuirs, actuellement, pas que. Il y a là, sur des micro-séries, on est en train de voir justement pour faire des... Donc, les petites pochettes, on faisait de la récupération. Là, pour l'instant, on a décidé de ne plus faire tout ce qui est petites pochettes. On a trois produits qu'on veut garder principalement. On est en pleine phase de recentrage de la gamme. On a un porte-carte, on a un sac qui est, lui, que en chambre à air et bois. Donc là, il n'y a pas de cuir sur celui-ci. Et on a le sac Paulette, qui est notre premier sac, qui, lui, est en cuir tanné végétal. et en chambre à air. Il faut savoir que le sac Paulette, quand je l'ai conçu, je l'ai conçu pour qu'il soit, on va dire, un produit simple, qui parle à tout le monde, qui soit pratique, esthétique et voilà, et très simple. Et du coup, je voulais qu'il soit industrialisé de façon plutôt simple. Donc, c'est vraiment le rabat qui est en chambre à air et les bandoulières, tout amovible. Donc, ce qui fait que la base reste en cuir. Et on n'a pas pu utiliser... Alors, on va peut-être le faire sur des micro-éditions, mais on s'est dit que si il cartonnait trop, c'était impossible de suivre le cuir sur des micro des micro-chutes, comme on veut. Je ne sais pas si on parle des micro-chutes, mais des fins de stock. Je pourrais en parler longtemps, mais en gros, les fins de stock, le problème, c'est que l'épaisseur des cuirs n'est jamais la même et qu'en fait, à chaque fois, ça remodifie toute la fabrication s'il y a une épaisseur qui est différente en atelier. Du coup, c'est un cuir qu'on a décidé qu'il soit tanné végétal. Donc, pourquoi j'ai fait ce choix, c'est que le tannage végétal est moins polluant que le tannage au chrome. Ça sent bien des spécificités, mais au niveau du cuir, en fait, le tannage au chrome est quand même utilise beaucoup plus de produits chimiques. Et un tannage végétal va permettre à la matière d'être à la fois plus résistante et d'avoir une empreinte aussi qui soit meilleure, on va dire, sur l'environnement. Un impact, plutôt, pas une empreinte.
Et dans les deux cas, que ce soit... si, c'est très clair. Ah. Ça suscite beaucoup de questions. Que ce soit dans le cas du tannage végétal ou de l'utilisation des chambres à air, est-ce qu'on peut tout imaginer? Parce que du coup, tu parlais de matière. A priori, la chambre à air, tu disais que c'était une matière qui était finalement assez souple, assez malléable, contrairement à ce qu'on peut peut-être s'imaginer. Mais du coup, est-ce qu'on peut tout imaginer en termes de forme? Quelles sont les contraintes, finalement, que ça impose? Et de couleur aussi?
Alors non, on ne peut pas tout imaginer. La problématique de la chambre à air, bon, déjà, c'est qu'elle est noire. Donc déjà, ça fait des produits qui sont plutôt... qui ont plutôt du caractère parce qu'on a du mal à mettre beaucoup de couleurs. Alors moi, je suis en train de réfléchir sur des produits qui vont être un peu plus colorés, mais c'est-à-dire que la chambre à air, elle sera sur des endroits spécifiques, mais c'est pas la chambre à air qui sera colorée. Et faut savoir que la chambre à air, comme je le disais, elle est très malléable. Donc c'est une matière qui est similaire au cuir. On pourrait le toucher au niveau du toucher. C'est assez étrange d'ailleurs. En fait, ce qui est la particularité, c'est quand on voit mes produits, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est du cuir et qui ne comprennent pas où est la chambre à air, surtout quand on n'en avait jamais vu. Les chambres à air, c'est vraiment l'intérieur des pneus de tracteur, pour le coup, ce qu'on utilise, mais il y en a aussi dans les camions, dans les vélos, etc. Et la chambre à air a une épaisseur qui, des fois, est irrégulière. Et ça, c'est une contrainte en atelier, parce que le fait qu'elle soit, du coup, irrégulière... peut entraîner des modifications aussi sur les modèles et ça aussi c'est très difficile à refendre, donc c'est possible de le faire, ça, et l'atelier le fait, mais la refonte c'est comme refendre du caoutchouc, c'est pas pareil refendre du cuir, on va dire. Donc c'est ça les principales contraintes. Je dirais qu'en termes de forme, on peut quand même imaginer pas mal de choses parce que ça reste une matière qui est malléable, donc on peut du moment qu'on peut la piquer et l'assembler avec d'autres matières, on peut en faire plein de choses. J'en ai déjà fait un manteau. J'avais fait pas un manteau entier, mais j'avais fait une incrustation dans un manteau. Par contre, c'est du coup, vu que la matière était assez épaisse, que je l'avais pas refendue, c'était assez mastoc. Mais on peut imaginer quand même pas mal de choses, je vais dire, mais je pense qu'il faut l'associer et ça serait impossible d'avoir un total bloc sur une industrialisation, en tout cas sur la pièce unique, des petites séries, pourquoi pas, mais pas sur l'industrialisation.
Et le tannage végétal, il permet aussi toutes les possibilités, est-ce que au contraire ça impose aussi certaines limites?
Ça impose des limites et c'est aussi ça qu'on se pose, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de, malgré tout, même si on veut quelque chose de responsable, nos clients ont aussi besoin de, voilà, que ça soit un peu, que ça change, qu'il y ait de la couleur, etc. Le tannage végétal, on est toujours sur des couleurs qui sont plutôt naturelles. Il y a certaines couleurs qui sont un peu plus peps, mais on n'est pas du tout sur les mêmes qualités de produits que sur des choses un peu plus fantasy, comme si je puis dire, sur des cuirs qui vont être avec des tannages qui sont faits à base de chrome. On n'est pas du tout sur les mêmes rendus, donc forcément ça pose des contraintes, mais c'est aussi pour ça que je pense qu'on va justement aller sur des fins de série, parce que les fins de série vont nous permettre peut-être de récupérer des fins de série de cuir qui ont cet aspect un peu plus fantasy et de pouvoir faire des choses qui changent un peu et qui permettent de... d'associer esthétique, responsabilité et d'avoir des produits qui, qui plaisent, tout simplement.
Ça sera un sacré challenge quand même niveau design, d'imaginer la forme du sac et potentiellement un code couleur, une esthétique, mais en fait, tout ce que tu vas récupérer n'est pas forcément en lien avec l'idée que tu avais. Donc en fait, comment tu conjugues ces deux éléments-là ?
Eh ben, c'est pas si simple. J'avoue que c'est...
Parce que c'est la matière qui t'inspire ou tu t'adaptes en fonction de ce que tu reçois pour coller le plus possible à ce que tu avais en tête ou comment ça marche ?
C'est assez compliqué. Comment je pourrais... Là, je suis en pleine phase sur ce sujet, donc je peux en parler. Là, on est en train de développer des modèles. Là, la problématique, c'est qu'on a envie qu'ils soient un peu plus colorés. J'ai des cuirs, moi, ma possession, qui sont tannés végétales, mais du coup, qui sont des cuirs qui ne sont pas forcément super colorés. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement voir les matières à ma disposition, mais ça va aussi... Ça va aussi définir ce que je vais créer. Conditionner, voilà, je cherchais le mot. Parce que ces matières, c'est des fins de stock, donc il n'y a pas forcément assez de matière. Pareil, en fonction des matières, moi, il faut savoir que j'ai plus auto un profil styliste. Je n'ai pas fait des études de maroquinerie spécifiques. Donc, ça va peut-être... si je choisis une matière qui est trop fine, ça va peut-être être compliqué en atelier. Il faut penser au fait... il faut penser à tout, en fait. Et des fois, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas forcément y penser tout de suite. Et l'objectif, mon métier en fait, c'est de penser à tout sur mes fiches techniques, que tout soit précis. Mais il y a toujours des contraintes liées à la matière, liées, je sais pas moi, au stock, aux quantités, aux possibilités de fabrication et puis à l'usage. Faut savoir que le premier sac que j'ai construit, qui est le sac Paulette, on a fait que de l'améliorer. La première version, quand je l'ai construit, elle était naturelle. Donc c'était un cuir qui plaisait beaucoup, qui était couleur un peu rose poudrée, très naturelle. Du coup, il y a presque pas de teinture dessus. Il faut savoir que dans la mode, ce qui pollue le plus, c'est les teintures. Sauf que un cuir naturel, ça salit très vite, ce qui fait qu'à l'usage, du coup, ça salit trop vite. Donc en fait, c'est là quand je dis qu'il y a toujours des dilemmes, c'est que à un moment donné, il faut faire un choix. Des fois, il faut mieux, je pense, avoir un cuir qui soit teinté un peu plus, mais que ça permette aussi de tenir plus dans le temps. Donc c'est aussi pour ça que je me bats un peu contre ça, sur le fait qu'on... En ce moment, le cuir est beaucoup décrié, mais malgré tout, et ça a été prouvé dans une étude dernière, c'est la matière qui est aussi la plus résistante actuellement. On l'utilise quand même depuis très très longtemps. Et tant que je trouve pas des matières qui soient aussi résistantes, le cuir pour moi reste la meilleure matière en termes de résistance produite. Donc c'est plein de dilemmes.
Voilà. Et peut-être qu'il vaut mieux un tout petit peu plus de teinture, comme tu dis, plutôt qu'au bout de quelques mois à peine, avoir un sac qui est sale et le jeter.
C'est exactement ça.
Entre l'impact de mettre à la poubelle et avoir un peu de teinture, il faut juste mesurer.
C'est exactement ça. J'ai pas de données chiffrées là-dessus. Moi, je le fais. C'est avec les retours aussi que je suis pas. J'ai pas un profil très mathématique ingénieur, j'ai plutôt un profil créatif, mais ce que je vois aussi, c'est que je me dis, à l'usage, quand on nous dit, oui, il faut mieux utiliser ça, des fois, je pense qu'il faut mieux prendre. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut prendre en compte tout, en fait. Il faut prendre en compte l'usage, il faut prendre en compte l'avant, l'après. Enfin, c'est vrai que ça, des fois, c'est pas facile à définir. Donc, je pense qu'il y a des métiers qui sont spécifiques et qui sont spécialistes dans l'analyse de tout ça. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte. Donc, il y a eu la matière qu'on a modifiée. Donc, on a arrêté de faire du naturel. On est reparti que sur du cognac et du noir. Mais il y a aussi des choses qu'on ne se rend pas forcément compte à l'usage. Mais nous, il y avait eu des problématiques sur des pressions à un moment donné où en fait les pressions étaient mal posées. Il y a toujours des trucs en production. Donc au final, c'est pas méchant, mais il a fallu certains les ramener à l'atelier pour rechanger les pressions. Et puis il y a des problématiques des fois qui peuvent être liées aussi de se dire là la cliente elle va préférer cette telle ou telle bandoulière. Enfin voilà, c'est plein de petites choses qui je pense se co-construisent on ne peut pas tout, malgré si on essaye d'avoir le produit parfait, il y a toujours des trucs qui restent à modifier après utilisation, on va dire.
Et où est-ce que tu t'approvisionnes en matière ?
Alors la matière, moi, ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs... Il y a un atelier dans lequel je vais beaucoup, qui est dans le Châtelet, où là, c'est pour tout ce qui est matière de récupération, où ils ont énorme hangar que j'adore. c'est... J'adore, parce qu'il y a toujours plein de choses là-bas. Voilà, c'est un atelier de récupération de cuir que je peux citer, qui s'appelle Brognard. Donc là, c'est top. J'adore aller là-bas. Ça me donne de l'inspiration, on va dire. Après, au niveau des appros, c'est pas forcément ici que c'est fait. L'atelier avec qui je travaille, en fait, qui me suit... pour le sac Paulette, on a un stock de cuir en fait qui est chez eux, et c'est eux directement qui ont géré du coup cet achat de matière qui provient d'Espagne et du Portugal, et donc c'est eux qui ont vraiment géré cet appro, ce qui m'a permis aussi d'être plus sereine, parce que mine de rien, vu que c'est eux qui gèrent la production derrière, ils savent exactement les quantités qu'ils ont besoin, et dès qu'il reste peu de quantité, ils savent m'indiquer ce qui reste, etc.
Très bien. Et c'est toi qui organises ta propre collecte après pour tout ce qui est chambre à air. C'est toi qui vas récupérer. Ouais. Tu as une source d'approvisionnement. Tu vas aller chercher sur plusieurs endroits. C'est toi qui organises la collecte. Est-ce que c'est une matière que tu achètes au final, parce que c'est une matière qui finalement est en fin de vie, qui est vouée être rejetée?
Alors pour ça, non, on ne l'achète pas. On ne l'achète pas. Pour l'instant, on est aussi encore sur des très petites quantités. Donc, on s'est pas confronté non plus à des ruptures. On a une super personne qui fait le tour de la Mayenne, parce que du coup, je viens de la Mayenne, et qui nous récupère la chambre à air. Donc là, on en a encore pas mal en stock. Donc c'est même pas nous, du coup elle arrive directement chez nous. Et après, du coup, par contre, c'est nous qui faisons toutes les étapes de nettoyage et d'envoi et de coupe pour l'instant. Mais oui, pour l'instant, j'ai pas de difficulté sur ça, parce qu'il faut savoir aussi que, comme je le disais, au niveau de, pour donner un terme des chiffres, sur une roue de chambre à air, donc une chambre à air, ça fait à peu près, allez, on va dire un mètre et demi, on va faire peut-être, je compte les pertes, on va peut-être faire 8 rabats, donc ça va encore, voilà. Je sais pas, on a encore de quoi se produire, et puis et de trouver ce qu'il nous faut. Surtout que j'ai souvent du coup des messages de personnes: oui, j'ai de la matière, est-ce que ça vous intéresse? Donc ça me pose pas trop de soucis pour l'instant.
Oui, sachant que c'est pas le sac en tant que tel qui est fabriqué, c'est plutôt des composants du sac, donc ça te laisse largement de quoi subvenir aux besoins de toute la collection, quoi.
Exactement, totalement.
Est-ce que ça a une odeur particulière?
Oui, ça a une odeur particulière. Alors, d'ailleurs, c'est très intéressant que tu me poses cette question, mais il y a une personne qui, une de mes clientes en fait, qui avait reçu le sac, c'était la seule à m'avoir dit ça, elle m'a dit: oh, mais j'adore l'odeur, j'ai l'impression de me retrouver en campagne. Du coup, je trouve ça assez drôle, j'ai l'impression que des fois, en fait, c'est un peu leur Madeleine de Proust. Donc, je trouve ça assez drôle d'avoir cette réflexion. Donc oui, ça a une odeur particulière quand même. Ça reste du caoutchouc.
Mais ça sent bon.
Je sais pas. C'est comme quand on est petite et qu'on aime bien les odeurs des fois de caoutchouc, de pétrole. Donc c'est un peu étrange. Mais je pense pas que ça soit vraiment ça qui intéresse. Je pense que c'est plus... En fait, au-delà de l'odeur du caoutchouc, je pense que c'est plus l'odeur de l'utilisation. Et peut-être qu'il y a un peu encore l'odeur de la campagne, on va dire. Donc, c'est plus ça que j'ai l'impression qu'elle avait ressenti comme odeur.
Oui, après tu t'intéresses, tu vas peut-être nous parler aussi de tes cibles, mais peut-être que tes clientes sont aussi des personnes qui sont sensibilisées à une consommation qui est plus responsable, et que le fait de simplement de sentir cette odeur sent en fait l'odeur du vrai, du réel, des matières authentiques.
C'est ça, c'est peut-être juste ça en fait, c'est peut-être juste l'odeur authentique. Du coup, oui, pour parler de ça, ça va dépendre des... Là, je l'ai eu sur une cliente. J'ai pas eu forcément d'autres retours sur ça. Par contre, j'ai eu une autre personne aussi qui elle m'a justement clairement dit que ça lui évoquait sa Madeleine de Proust, parce que ça lui rappelait son enfance. Et ça, je pense que c'est assez récurrent sur certaines de nos clientes qui vraiment s'y retrouvent, parce que ça leur rappelle quelque chose. Et les personnes en fait qui ne vont pas connaître vont plus se dire vont plus être surprises, parce qu'en fait au premier abord, si je le disais pas, personne ne saurait qu'il y a de la chambre à air sur mon rabat. C'est ça aussi. Donc ça va plus être la surprise qui fait que du coup ça pousse la personne à s'intéresser aussi à la marque et à comprendre ce qui se cache derrière. Enfin, c'est mon point de vue, mais je pense que ça nous aide aussi à être visible.
Et alors, en termes de positionnement, vous avez un positionnement qui est plutôt haut de gamme, avec certains codes du luxe, comme le fait de pouvoir... numéroter qu'un certificat d'authenticité les produits. Vous êtes aussi en précommande pour avoir un choix d'édition limitée, ce qui est peut-être d'ailleurs un peu conditionné aussi à l'approvisionnement en matière, et puis pour certainement éviter la surproduction. Mais du coup, c'est peut-être un positionnement qui peut surprendre puisqu'on est sur des matières responsables, éco-conçues. On ne s'attend pas forcément à avoir des codes du luxe sur ce genre de produits-là.
Complètement. C'est vrai que c'est un peu contradictoire. C'est vrai que ça peut être un peu contradictoire, mais je pense que c'est aussi comment dire, conditionné par rapport à la matière, comme j'ai pu le dire, à la chambre à air, même si on peut en avoir quand même.
Qui est noble, ouais.
Je pense que voilà, c'est des grosses questions qu'on est en train de se poser aussi actuellement. Hein. Rien n'est toujours figé au niveau des choix, parce que je pense qu'ils sont toujours amenés à être évolués. Mais en fait, on peut pas se permettre d'avoir des très 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 grosses quantités. Peut-être sur certains produits, il y a certains produits où là on peut se permettre, mais vu qu'on reste sur du made in France, ça pose aussi des problématiques de marge aussi pour pouvoir faire de la quantité. Et c'est pas forcément ce qu'on a envie de développer. J'ai plus envie de rester sur des produits qui soient nobles. Des personnes, elles achètent leurs produits, peuvent le personnaliser. Elles sont au moins, il n'y a pas de surproduction en quantité et la qualité est plus au rendez-vous que si on faisait la quantité qu'on distribuait partout. Après, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Je me dis aussi que moi, j'exclus pas qu'à l'avenir sur certains produits, on puisse pas forcément distribuer, mais peut-être moi, ma vision, ça serait d'avoir potentiellement une boutique, voire plusieurs, et de pouvoir voilà, avoir des produits qui soient mis en place et accessibles, et d'avoir après nos gammes toujours en précommande, accès bien sûr pour éviter la surproduction. Bien sûr, et toujours avoir une gestion qui soit pensée. J'ai perdu mes mots. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oui, bien sûr. Et quelles sont les contraintes que ça t'impose, toi, le fabriquer en France, le made in France ?
Beaucoup de contraintes. Ma première réponse. Non, c'est beaucoup de contraintes. Et des fois, on se le dit aussi avec Clément, des fois, on a l'impression qu'on le fait pour une minorité. Après, je pense que je pense vraiment qu'on est de plus en plus en demande du made in France, mais on est aussi sujet au fait qu'on est en concurrence avec des géants, donc bien sûr pas forcément. Enfin, la grosse problématique, elle est d'être visible, et ça pose aussi des contraintes de budget, parce que bien sûr, si on avait choisi de distribuer en tant que jeune marque, c'est compliqué d'avoir des marges suffisantes pour distribuer. Donc ça demande beaucoup de patience, je dirais beaucoup de patience surtout. On a une vision avec Clément qui est sur du long terme. On sait que sur les dix prochaines années, Atelier Verdet, ça sera toujours en place, voilà, voire beaucoup plus. Mais en tout cas, moi, sur 10 ans, pour l'instant, je sais où je vais. Et c'est vrai que du coup, ça demande énormément de patience, énormément de remise en question, énormément de patience, je dirais.
Et alors, où sont produits les sacs ? Tu parlais d'ateliers tout à l'heure, ce sont des ateliers qui sont spécialisés, ils sont tous en Mayenne ?
Alors non, ils ne sont pas en Mayenne. On travaille avec un atelier qui est classé patrimoine vivant à Nantes. Et du coup, cet atelier, en fait, on travaille avec eux depuis le début. Et du coup, on est très satisfait du travail, parce que la qualité est au rendez-vous. Faut savoir que c'est une entreprise qui est familiale, qui a énormément d'expérience et qui travaille notamment qui travaille très bien, on va dire. Et du coup, on est très contents et ça nous permet aussi d'avoir des produits qui soient qualitatifs et à l'image de ce qu'on a envie de montrer.
C'était une vraie volonté de votre part d'avoir à la fois un impact sur l'environnement de par les matières que vous utilisez, mais aussi un impact social en utilisant justement cet atelier qui est classé patrimoine vivant et en soutenant l'emploi local.
Alors je pense que, en fait, ça on va en parler, mais moi je pense que je suis très optimiste, je suis une éternelle optimiste, et quand on a commencé à monter Atelier Verdet avec Clément, faut savoir qu'au tout départ, on va revenir sur la géobie de mentionner ce passage, mais au tout départ on était quand même sur des t-shirts pour entrepreneurs, donc rien à voir. Mais bon, ça c'était le début de l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, dès le début, moi, on a commencé à sourcer des ateliers, du coup, dans ma région, en Mayenne, qui étaient spécialisés dans la maille de luxe. Et je voulais que tout soit parfait parce que du coup, j'étais du domaine, donc je savais exactement quelle matière il fallait que j'utilise et qu'est-ce qui serait le mieux. Mais en fait, on se contraint, enfin, je me suis vite confrontée en le montant ce premier prototype de t-shirt, bah, à la réalité qui est que quand tu veux faire du tout parfait, bah, forcément, ça a un coût. Et c'est là que je dis qu'il faut faire des choix à un moment donné, c'est que, en fait, on est forcément contraint de contrebalancer un moment et de se dire bon bah non en fait je veux que mon produit il soit à tel tarif, si je veux qu'il soit à tel tarif je peux pas me permettre de faire tout ça, et je me suis vraiment entraînée sur ce prototype on va dire qui était pas de la maro pour le coup, mais c'est vraiment là que je me suis vraiment confrontée à ça et voilà un peu comme un conflit où tu dis bah en fait non c'est pas possible quoi, et j'aime pas me dire ça parce que du coup moi je pense que toujours tout est possible donc j'essaye toujours et en final je me suis rendu compte quand même qu'il fallait faire des concessions. Et je m'en suis encore plus rendu compte du coup sur notre première proto de maroquinerie où comme j'ai pu te dire, y a des choses où il faut faire des concessions, que ce soit sur, j'ai pu le dire, sur la teinture, que ce soit en termes de tarifs, si tu veux t'adresser à telle cible. Et c'est, je pense que c'est ça qui est le plus dur, de se dire où est-ce que je vais, où est-ce que je m'arrête et comment je fais pour avoir un produit qui soit à la fois voilà, au prix que je souhaite, avec l'esthétique que je souhaite et avec la qualité que je souhaite. Et, voilà, ça, c'est le plus dur. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est le plus dur.
Oui, clairement. Et est-ce que ça a été facile de trouver l'atelier puisque la manipulation de ta matière rend peut-être un savoir-faire plus rare. Mm-hmm. Au final, c'était assez facile de trouver.
J'ai pas eu. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, du coup, comme je le disais, je suis revenue en Mayenne. Moi, donc j'avais lancé les t-shirts, etc. Et c'est là, il y a eu le confinement. En fait, comme quoi, je crois pas vraiment au hasard, mais je suis retournée en Mayenne. Je sortais de mon poste, j'étais à Saint-Malo. Mes t-shirts, donc tout était à l'arrêt, etc. Et je me retrouve du coup à repenser à cette idée de chambre à air où je me dis mais non mais c'est maintenant qu'il faut que je lance, et je contacte du coup parce que cette chambre à air, c'est moi qui ai fait les premiers tests de gravure, donc il y a même des gravures que j'avais, enfin voilà, le premier rabat-paulette, cette gravure là c'était un motif que j'avais dessiné moi-même il y a au moins 3-4 ans en avance, 3-4 ans en arrière, et du coup j'ai recontacté en fait mon école, et mon école m'a donné des noms en fait d'ateliers de maroquinerie, on a donné d'ailleurs deux. Et c'est comme ça que ça a commencé, je les ai contactés. Ce qui les a, je pense, rassurés, parce que je pense qu'ils ont énormément de demandes, c'est que j'étais déjà dans le milieu des bases. Et il faut savoir que, on pourra en reparler, mais en général, moi, je trouve qu'en ce moment, c'est pas forcément des stylistes qui m'en démarquent, hein. C'est souvent des personnes qui sont pas forcément dans le secteur, ou plus des personnes qui ont fait études de commerce, des choses comme ça, des choses que je n'ai pas faites. Du coup, je pense que ce qui les a rassurés, c'est que j'étais dans le domaine. J'ai fait mes premiers rendez-vous, j'ai été les voir directement parce que c'était important pour moi. Et puis, au final, j'ai décidé de choisir de travailler avec l'atelier qui est situé à Nantes parce que ce qui m'intéressait, c'est qu'ils étaient classés patrimoine vivant, c'est qu'il y avait un véritable savoir-faire et que... moi qui était qui n'était pas forcément issue, ils m'ont vraiment accompagnée aussi dans le prototype. J'avais pas besoin de sourcer mes matières, ce qui est quand même très compliqué quand tu t'attaques à sourcer du cuir et que t'es pas dans le secteur, trouver les tanneries, c'est quand même un milieu qui est très complexe. Maintenant je le maîtrise un peu plus, mais ça m'a vraiment rassurée. Donc non, ça a pas été si complexe que ça. Ce qui était plus complexe, c'est le temps en fait. Faut se dire qu'il y a toujours du temps, en fait, il y a toujours des problématiques dans les prototypes, il y a toujours des choses. Et puis ça, je le vois déjà bien. Il faut savoir aussi que moi, même avant de lancer la marque, en fait, j'accompagnais pas mal de projets, même cette année, sur la partie style et sur la partie, des fois, ça allait jusqu'à le suivi avec des fournisseurs. Et il y a toujours du délai. Mais bon, je pense que ça, c'est dans toute boîte, il faut toujours prévoir plus des délais. Donc voilà.
Et quel est ton plus gros challenge du moment ?
Oula, quel est mon plus gros challenge ? Mon plus gros challenge du moment, c'est justement d'arriver à trouver un équilibre, on va dire. Et puis, je pense que je suis encore dans une recherche perpétuelle pour trouver le bon équilibre. Donc, je pense que c'est trouver l'équilibre entre tout... entre tous les pôles, je vais dire.
Entre quoi ? Toutes tes contraintes ?
Toutes les contraintes, trouver aussi comment voilà, se rendre visible, comment... je pense que ouais, c'est trouver l'équilibre. Je pense que c'est ça ma plus grosse contrainte. Je sais pas si c'était... Ouais, trouver l'équilibre, on va dire ça.
Très bien. Les produits, aujourd'hui, la gamme, elle est vendue sur le e-shop uniquement ?
Ouais, on vend que sur le e-shop. Pour l'instant, la stratégie, elle est que sur l'e-shop. J'ai fait des premiers tests de pop-up sur Paris. Là, j'en ai d'autres aussi qui sont en cours en test. Mais pour l'instant, on fait que du e-shop et on ne fait pas du tout de distribution. C'est pas mon objectif.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la gamme ? Tu as donc des sacs, mais aussi pas forcément des produits que pour femmes. Tu as aussi une gamme pour hommes, je crois. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce qu'on peut retrouver sur cet e-shop ?
Bien sûr. Donc, comme je disais, aujourd'hui, là, on a trois produits principaux. On a le porte-carte qui est unisex, qui est un porte-carte qui est noir, qui peut contenir trois cartes de crédit et puis sa carte d'identité. Donc, avec la base qui est en chambre arrière derrière, ils sont tous numérotés. Donc, ça, ce porte-carte, on l'a lancé il y a peu de temps, là, début d'année. Octobre. On a lancé aussi un sac qui est en bois et chambre arrière de tracteur. Donc, là, qui est en bois de noyer. Fait par un artisan en Mayenne, et puis après chambre air, donc toujours avec le même atelier. Pareil, tous nos sacs sont numérotés, personnalisables sur la partie en bois. Ce sac-là, il y a vraiment une histoire parce que c'est. On nomme tous nos produits avec un nom, et donc là c'est le sac Florence, et c'est le nom de la maman de mon associé. Voilà. Après, on a le sac Paulette, qui est du coup mon surnom et qui est notre premier modèle, comme je dis, qu'on a amélioré avec le temps, qui lui aussi est numéroté. Donc, tous les produits, de toute façon, ont un certificat. Donc, ça, c'est nos trois produits qu'on peut retrouver sur le e-shop. Et puis, après, sur les autres produits qui sont en cours de développement, j'en dis pas plus, mais je pense que d'ici les prochains mois, je dis pas les délais parce qu'il y a toujours des délais supplémentaires, mais il y aura de nouveaux modèles de disponibles.
Canon. Tu peux nous indiquer un ordre de prix pour les sacs, une fourchette,
ouais, peut-être
d'un modèle à l'autre, mais, ou un démarrage de prix ?
Alors, on va, pour le porte-carte, on est à 139. Et après, pour les sacs, on va de 290 jusqu'à 400, à peu près. Ça va dépendre, en fait, de la personnalisation, de si on souhaite une bandoulière en cuir. Le sac Paulette, en fait, est à 290 avec bandoulière en chambre à air. Et ensuite, si on souhaite une bandoulière en cuir, on augmente le tarif en fonction de ce qu'on souhaite. Donc là, c'est vraiment un produit qui est amovible. Les rabats sont possibles d'être achetés aussi par la suite.
Ouais. Très bien. Quelle est ta vision pour l'entreprise ? Tout à l'heure, tu parlais d'une échéance à 10 ans. Jusqu'où tu aimerais l'emmener ?
Jusqu'où j'aimerais l'emmener ?
Ouais.
Moi, ma vision de la boîte aussi... Comme j'ai pu le dire, c'est que j'aime la mode au global, donc je m'interdis pas. Je pense que je suis encore jeune aussi et qu'il faut que je puisse tester et voilà, que je m'interdis pas de faire pas que de la maroquinerie, on va dire. Même si moi, avec Atelier Vardé, ce que j'imagine et la vision que j'ai, c'est vraiment d'en faire une marque qui soit reconnue, qui soit visible, que les produits soient aimés pour leur qualité, que c'est peut-être le cadeau qu'on va offrir à sa fille pour ses 18 ans pour qu'il lui tienne longtemps. J'ai envie d'en faire une marque qui soit reconnue, on va dire, et qui soit surtout reconnue avec son impact, qui soit visible. D'avoir mes propres boutiques, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. D'avoir toujours ces stratégies de précommande qui permettent d'avoir des pièces uniques aussi. Travailler pourquoi pas des pièces qui soient à la fois digitales et ancrées sur terre. Je pense que l'intérêt aussi de notre projet, c'est que Clément a vraiment cette partie digitale et moi j'ai vraiment cette partie plutôt produit. Et j'ai vraiment envie de continuer dans... Comme j'ai pu le dire, en fait, cette recherche d'équilibre qui est parfois compliquée à trouver et vraiment d'être dans l'équilibre, en fait. C'est voilà un peu ce que j'ai en tête.
Ouais, très bien. Et ta vision à toi, plus personnelle, d'un monde meilleur, qu'est-ce que ça serait ?
Ma vision personnelle, tu veux dire de la marque ?
Non, ta vision personnelle d'un monde meilleur. Donc, plutôt de manière globale, qu'est-ce que tu ferais toi pour changer le monde, en fait ?
Qu'est-ce que je ferais moi pour changer le monde ? Ça, c'est une question. Alors là, j'ai pas forcément la réponse. Je dirais que Je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours cette notion d'équilibre qui est super importante pour moi et qui est super dure à trouver. Je pense qu'il faut arriver à... je pense que les extrêmes ne sont pas bons. Depuis mes 16 ans, parce qu'on, enfin, depuis l'art appliqué, on travaille beaucoup de sujets, en fait, on fait beaucoup, beaucoup de projets. Et dans tous mes projets, il y avait cette recherche de, ce qui est visible, invisible, l'équilibre. Enfin, j'ai toujours fait des contradictions comme ça, donc je pense que c'est, ce qui est le plus dur, en fait, c'est vraiment d'arriver à s'équilibrer, d'être dans l'amour aussi, je pense que c'est important. D'être là, d'être présent et puis de vivre cette vie, parce que je me dis aussi que qu'on n'a qu'une vie, si on peut le dire. Après, on dit qu'on n'a qu'une vie, chacun voit les choses différemment, mais peut-être arrêter d'être dans le rejet et d'être dans l'amour, en fait. Je pense qu'il faut juste arriver à être dans l'amour et c'est pas super simple, même pour les personnes qui en ont conscience. C'est un gros travail, je pense, au quotidien, d'être toujours positif, d'avoir envie de donner aussi, parce que je pense qu'entreprendre, c'est donner sans compter. En tout cas, c'est ma vision. Et des fois, c'est faut d'énergie, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, l'équilibre. Je ne suis pas très claire aujourd'hui, mais on va dire équilibre. C'est mon mot du jour.
En un mot, équilibre.
Voilà,
équilibre. Et alors, quelles sont justement tes sources d'inspiration pour progresser sur cet équilibre? Comment tu t'inspires au quotidien?
Comment je m'inspire au quotidien? Alors, j'aime beaucoup lire. D'ailleurs, je le fais moins en ce moment parce qu'en fait, quand tu es pris dans tes tâches et tes missions opérationnelles, des fois, ce n'est pas toujours évident. Mais je me rends vraiment compte que c'est important que j'ai besoin de lecture et que c'est ça aussi qui m'a amenée à entreprendre. Donc, la lecture m'a beaucoup aidée. Je vais regarder aussi beaucoup, beaucoup de vidéos de développement personnel que j'aime beaucoup, même si je me suis rendu compte aussi qu'il ne faut pas non plus être tout le temps que ça peut être très chrono je sais pas comment dire, pas chronophage mais anxiogène. Il faut faut arriver aussi à relâcher, décompresser. Donc moi, ce qui m'inspire vraiment, c'est la lecture sur divers sujets, les vidéos que je peux regarder. Des fois, c'est juste aussi se balader dans la nature et en fait, t'as des idées qui viennent, alors que des fois, t'as juste envie d'être focus et tu te dis, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, mais en fait, t'es plus efficace en étant plus libre et le cerveau plus ailleurs, en fait. Alors, je sais pas comment dire, mais t'es plus...
Ouais, ça veut être plus ressourçant et le cerveau, elle laisse plus la place à l'imaginaire, à la créativité.
C'est ça.
En extérieur, peut-être aussi davantage, ouais.
Mais c'est très compliqué d'être dans cette... parce que je ne le suis pas tout le temps et je sais quand je suis dans ces périodes. En fait, il y a vraiment des périodes quand tu es trop, trop, trop dans l'action, tu perds un peu ta créativité. Et ce qui est le plus dur aussi, c'est que j'ai une casquette entrepreneur et j'ai une casquette créative. Et c'est vraiment de joncher entre les deux, de jongler entre les deux, désolée. Et d'arriver à... à retrouver cette créativité quand j'en ai besoin et de retrouver ce côté je fonce quand j'en ai besoin. Donc je pense que c'est pour ça que je dis beaucoup équilibre, parce que c'est ça que je dis en ce moment. Après, aujourd'hui j'ai envie de dire ce mot-là. je pense que ça dépend peut-être des jours aussi, mais ouais.
Voilà, tu es dans une phase dans cette recherche-là, en tout cas.
Ouais, actuelle. Mais je pense que je le serai toute ma vie.
Tu as créé une marque donc, qui a un vrai impact à la fois sur l'environnement, sur le social. Est-ce que ces gestes-là, cette attitude-là, tu l'as toi au quotidien, ou est-ce que tu l'as peut-être développée au fur et à mesure de la création d'Atelier Verdé? Quels sont les gestes green que tu as pu mettre en place au quotidien et que tu aimerais nous partager?
Ça, c'est très, très intéressant comme question quand je parlais d'ambivalence. C'est que... Je me considère pas, pour être honnête, je trouve que dans ma vie quotidienne, en fait, je suis tellement happée par mes projets que parfois, en fait, je pense qu'il y a, en fait, pour moi, c'est des questions d'habitude. Et je veux dire que j'ai pas encore toutes les habitudes que je devrais avoir sur ces gestes-là, même si j'ai conscience de notre impact. Moi, j'avais pris, enfin, pour la petite histoire, moi, j'avais pris conscience de mon impact quand j'étais en poste à l'époque, donc quand j'étais assistante style. Et j'en avais vraiment pris conscience parce que justement, j'avais plus de temps pour moi et que j'avais regardé un reportage qui parlait de la date butoir chaque année et ça m'avait mais bouleversée. Et c'est là que j'en avais pris conscience et que je m'étais dit non, mais j'ai envie de faire ça à mon échelle. Et en fait, quand tu te confrontes des fois à la réalité, tu te dis mais en fait, mince, je peux pas. Malgré tout, tu peux pas. On est tous confrontés à ça, mais c'est qu'on. Des fois, on se sent impuissant. Moi, dans mon quotidien, j'ai. Comment dire j'essaie, surtout dans ma. C'est plutôt dans ma consommation vestimentaire où je fais attention, beaucoup attention. Je pense que chacun, on fait attention dans des domaines différents. Moi, ça va vraiment être dans le vestimentaire parce que c'est mon domaine, donc je vais faire attention. Moi, je m'habille plus chez Zara, H&M, etc. depuis. Enfin, je sais pas si je peux les citer d'ailleurs, pour peut-être couper, mais je m'habille plus dans les grandes distributions depuis au moins 3, 4, 5 ans. Même si je suis jeune, je range des. Enfin, c'est ce que je voyais en études, donc en fait, j'arrivais pas en fait, même si c'est mode et que bah, je suis censée être dans la mode, je suis peut-être un peu trop courant, mais on va dire les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés et je pouvais pas, c'est pas possible pour moi. Par contre, à contrario de ça, parfois, des fois, dans certains autres domaines de ma vie, il y a des choses que je vais pas faire qui pourraient être évidentes pour d'autres personnes. Et en fait, là, tout est la contradiction. Il y en a qui vont faire plus attention à leur voyage, d'autres, ça va être dans l'alimentaire, d'autres, ça va être dans... je sais pas moi, de faire tous les trajets à vélo, enfin ça dépend vraiment de chacun. Et moi, pour le coup, on va dire que je fais vraiment attention dans ma consommation vestimentaire. Les autres domaines, je trouve que je suis pas encore assez j'arrive pas encore à être parfaite, quoi. Et de toute façon, personne n'est parfait, mais honnêtement, je ne suis pas parfaite. Voilà.
Après, est-ce que la prise de conscience n'est pas déjà aussi un premier pas? C'est que tu sais peut-être ce que tu pourrais faire, et du c'est coup, ça. Un jour, c'est peut-être encore une question d'équilibre aussi.
Exactement. Mais c'est pour ça que c'est très compliqué. Je me dis même aussi, il y a une notion aussi de se dire que, en fait, tout ce qui est, et actuellement c'est vrai, plus si on veut être. Il y a une notion liée aussi au pouvoir d'achat, je pense. C'est que plus on veut tout faire correctement, plus actuellement c'est aussi des coûts qui sont importants forcément. Et en fait, quand j'en parle des fois, par exemple, sur le côté vestimentaire, je pense que chacun, en fait, est libre de mettre. Son argent là où il le souhaite, et en fait chacun va le mettre à des endroits différents. Et moi, quand j'en parle par exemple à des personnes que je côtoie qui vont acheter dans de la grande, enfin qui voilà n'ont pas du tout conscience de cette empreinte sur le côté vestimentaire, eux ce qu'ils voient derrière c'est juste ce que ça va leur coûter, et ils voient pas derrière tout ce que ça engendre. Donc je sais pas comment expliquer, mais en fait on peut pas non plus blâmer les gens, parce qu'en fait je me dis que chacun en fait nos choix, mais qu'il y en a qu'on n'a juste pas conscience déjà, et que c'est de l'éducation en fait. Faut éduquer, faut faire prendre conscience, et des fois même en faisant prendre conscience, il y a toujours la contrainte de la vie active ou de la vie qui va très vite, et que les gens se rendent pas forcément compte de leurs achats, quoi. On va dire ça.
Et cette transparence, toi, vous l'avez auprès des clients et clientes Atelier Verdé, dans leur acte d'achat, dans la fiche produit, dans le colis qu'elles reçoivent peut-être, vous sensibilisez aussi sur ces sujets-là?
Sur les sujets, tu veux dire, quand tu dis transparence...
Sur les impacts environnementaux, sur pourquoi, en fait, vous utilisez des matières qui sont éco-conçues, en quoi ça permet d'améliorer, ou sur les ateliers aussi que vous utilisez?
Alors, en fait, c'était une grosse. Moi, je me suis posé beaucoup la question. Actuellement, en fait, il y a beaucoup de marques du coup qui communiquent, mais qui font presque, on va dire, du greenwashing aussi sur ça. C'est très compliqué de trouver le milieu. Là, on revient à l'équilibre, mais qu'on communique sur certains sujets, sur le fait que voilà, pour qu'on utilise du cuir, sur tout notre site, on peut voir qu'il y a une partie pourquoi on a choisi le cuir, pourquoi on a parti ça. Peut-être qu'on le fait justement pas assez, et que peut-être les personnes ne voient pas assez pourquoi on a choisi telle ou telle matière. Après, j'ai envie de dire aussi que rien n'est parfait, et que j'ai pas envie de tomber dans du greenwashing. Donc, je me pose de plus en plus de questions, où je me dis, mais en fait, est-ce que des fois il faut vraiment tout dire? Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à parfois, peut-être des fois être trop transparente, et je me rends compte que bah en fait des fois ça te enfin je sais pas comment dire mais ça peut te porter porter à défaut alors qu'en fait t'essaies juste de faire les choses bien et que j'ai pas envie qu'on me dise que je fasse du greenwashing alors que bah voilà je suis pas parfaite sur tout et que j'essaie juste d'améliorer en tout cas et de faire ce que je peux de mieux sur la marque et avec les contraintes avec tout ce qui en suit.
Mais en tout cas, merci pour ta transparence sur tous ces sujets-là, d'avoir répondu honnêtement aux questions. Je crois qu'il est temps qu'on passe à notre petit quiz final. Est-ce que tu es prête ?
Dis-moi, pas de souci.
Donc l'idée du quiz, c'est que je te donne une série de questions avec à chaque fois un choix A ou un choix B et que tu puisses répondre le plus spontanément possible par l'une ou l'autre des réponses, sachant que, je le rappelle à chaque fois, il n'y a aucun jugement dans les réponses, donc sens-toi libre de répondre ce qui te plaît et ce qui te correspond en tout cas. Pour te rendre au travail, tu es plutôt vélo ou voiture ?
Voiture. Voiture.
Dans ton frigo, si tu n'as rien, t'es plutôt McDo ou Too Good To Go ?
Too Good To Go. Hein, Too Good To Go. Je serais plutôt Too Good To Go quand même. Plutôt que McDo.
Ouais. Le lundi, t'es plutôt steak frites ou Veggie Monday ?
Le lundi. Je ne suis pas très steak frites. On va dire Veggie Monday. Hein.
Pour les ventes sur Atelier Verdé, vous êtes plutôt Black Friday ou Make Friday Green Again ?
Make Friday Great Again. On n'a pas fait de Black Friday.
Et avant de t'endormir le soir, plutôt Netflix ou un bon bouquin ?
Ça dépend des jours. En fait, on va dire bon bouquin quand même.
Plutôt bon bouquin, et ça dépend.
Ouais, ça dépend.
Ça dépend. C'est parfait. Bah, en tout cas, écoute, merci beaucoup, Pauline, d'être prêtée déjà au jeu du quiz, de nous avoir présenté ta marque, ton univers, tes créations aussi, et puis d'avoir répondu à l'ensemble des questions qui font prendre conscience aussi qu'on peut produire différemment, qu'on ne veut pas avoir un vrai impact environnemental, un impact social, tout en produisant localement, et puis nous avoir éclairé sur les choix qu'implique le Made in France. Et en tout cas, merci pour cette transparence sur tous ces éléments-là. Et écoute, je te souhaite une belle continuation avec Atelier Verdé, en espérant que tu puisses l'amener où tu le souhaites, en espérant voir toutes les boutiques dont tu parlais tout à l'heure.
Ouais, y a pas de raison, on va faire tout pour.
Super, mais écoute, je te souhaite une très belle journée, Pauline, et puis je te dis à bientôt.
Bah, merci à toi, Pauline, et à très vite.
Merci, à bientôt, ciao.
Votre épisode communautaire est maintenant terminé. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à noter ce podcast avec une note 5 étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté. Partagez-le à au moins 2 personnes autour de vous et inscrivez-vous à la newsletter. Je vous enverrai le prochain épisode par email. Vous pouvez vous rendre sur le blog www.communautaire-to2re.com pour retrouver les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.